Cette femme était vraiment dans une mauvaise situation. D'abord, elle était veuve. Ensuite, elle était pauvre. Et par-dessus le marché, elle avait des dettes. C'est dire qu'elle était vraiment dans une mauvaise situation. Mais elle avait un avantage, cette femme, que beaucoup de gens de son pays à ce moment-là n'avaient pas. Elle savait qu'il y avait un prophète de l'Éternel dans son pays. Alors elle est allée le voir. En effet, beaucoup de gens de son pays à cette époque-là avaient oublié que Dieu même avait un prophète. C'est dire qu'ils avaient oublié que Dieu s'occupait aussi d'eux, éventuellement. Mais cette femme-là, non. C'était la femme d'un des fils des prophètes. Mais son mari était mort. Et l'histoire ne nous dit pas pourquoi il est mort, ni à quel âge il est mort. Mais cette femme est veuve. Et une veuve en Israël à cette époque-là est vraiment dans une situation difficile. Elle est dépendante de son mari pour toute chose dans la vie. Et maintenant, la société dans laquelle elle est la considère comme vraiment quelqu'un qui n'a plus vraiment d'identité. Mais elle a encore deux garçons. Et elle est soucieuse. Cette histoire qui nous est racontée dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4 est une histoire intéressante où le prophète Élisée va de nouveau intervenir. Dans les chapitres qui précèdent et les chapitres qui suivent, on apprend que le prophète Élisée a un ministère puissant en Israël. Et cette histoire nous rapporte un événement de la vie quotidienne des gens de ce temps-là, qui eux aussi avaient des épreuves particulières. Cette femme se retrouve seule avec ses deux enfants, mais elle a des dettes. Alors elle va demander de l'aide du prophète parce que, puisqu'elle a des dettes et que son mari est mort. Alors, le créancier arrive et dit, « Bon, maintenant que ton mari est mort, tu n'as plus beaucoup de chance de pouvoir rembourser tes dettes. Par conséquent, je prends tes deux enfants. » Alors, essayez de prendre les deux enfants d'une maman. Même une maman ours va vous faire des fameux problèmes si vous essayez de lui prendre ses petits-enfants. Alors, allez demander à une maman, « Écoute, ce n'est pas un problème, à la place de tes dettes, je prends tes deux enfants. » Vous imaginez ce que ça donne ? Ça donne une femme avec une conviction qui va voir le prophète et qui dit « Maintenant, il faut que le Seigneur m'aide. » Alors le prophète va s'adresser à cette femme et lui poser une question simple. « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Quelles ressources as-tu ? » « Je n'ai rien. Je n'ai rien. » C'est justement là le problème. « Ah si, j'ai un petit pot d'huile. » dans la cuisine. Mais il n'y a aucun rapport entre un pot avec un peu d'huile dedans et deux garçons qui sont menacés d'être pris par le créancier pour en faire des esclaves, pour payer la dette du père. Et pourtant, c'est ce que le prophète va utiliser. Les créanciers à cette époque-là étaient des gens, peut-être comme les créanciers d'aujourd'hui, qui allaient au-delà de la mesure. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8 et au chapitre 6 d'ailleurs aussi, on comprend que les riches de ce temps-là profitaient des pauvres au maximum. Et ils étaient prêts à prendre les enfants comme serviteurs et comme esclaves, simplement pour une paire de souliers qu'on devait leur rendre et qu'on n'avait pas pu leur rendre au bon moment. C'est-à-dire qu'ils essayaient de tirer toutes les ressources qui pouvaient rester dans les familles des pauvres pour les mettre à leur service. Et c'est sans aucun doute ce que le créancier voulait faire là aussi, lui prendre ses enfants. Une veuve, pauvre, sans enfants, c'est plus personne. Alors le prophète va lui dire, « Maintenant va prendre tes deux garçons et aller ramasser dans le voisinage tous les vases, tous les contenants que vous pouvez trouver. » Et le texte dit, « Pas un petit nombre, tu ramasses tout ce que tu peux trouver. » Alors cette femme va rentrer à la maison, elle va dire à ses deux garçons, « On a du travail les gars. » Et vous voyez cette femme avec ses enfants qui part de maison en maison pour aller chercher des pots, des vases, des contenants de toutes sortes, de toutes tailles et qui ramène ça à la maison. Je vous promets, je vous les rapporterai. On est dans une société dans laquelle on est prêt à céder les uns les autres dans une certaine mesure, peut-être plus qu'aujourd'hui. Et vous voyez la maison de cette femme qui se remplit de pots, de cruches, de vases, de toutes sortes de contenants. Et les garçons se prennent au jeu, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ah oui, je connais celui-ci, je vais lui chercher un vase. Ils vont dans le village, partout. Et ils ramassent des pots de toute espèce. Il y en a plein la maison. Alors la femme va voir le prophète et lui dit, maintenant je fais quoi? Tu prends ton huile, tu remplis ces vases d'huile, tu vas les vendre, tu payes ta dette. Et tu auras même encore un peu d'argent pour vivre là-dessus après. Fais bien attention, ferme la porte et fais ce que je t'ai dit de faire. Ok, c'est ce qu'elle va faire. Et ça va durer un bon moment. Il y a des pots de toute taille et il faut remplir avec cette petite cruche d'huile qu'elle a. Et elle verse, et elle verse, et elle verse. Et les pots se remplissent, les uns après les autres. Vous voyez les deux garçons qui sont là avec des yeux grands comme des assiettes et qui regardent ce petit pot de rien du tout qui remplit un pot grand comme ça. Maman, maman, mais il y a encore de l'huile, d'où elle vient ? Tais-toi, mon fils, je ne sais pas, remplis. Maman, comment ça se fait qu'il y a encore de l'huile ? Mon fils, passe-moi une autre cruche. Tant que ça coule, ça coule. Elle-même n'y comprend rien, mais le prophète de l'Éternel lui a dit, alors elle fait. Vous imaginez d'ailleurs que c'est un test de sa foi. Le prophète lui a dit, n'apporte pas un petit nombre de cruches, beaucoup. Elle n'avait pas encore idée de ce qui allait se passer. Elle n'avait pas encore idée du lien qu'il y avait entre son petit pot d'huile à la maison et ses deux enfants qu'on voulait prendre comme esclaves. Mais il y avait des cruches à remplir. Et vous savez, vous auriez été à sa place. Vous vous seriez vraiment demandé ce qui se passe. Remplir des litres et des litres et des litres d'huile dans des pots, des grands, des petits, des hauts et des minces, avec une petite bouteille d'huile qui vous reste à la cuisine. Et ça coule encore, et ça ne s'arrête pas. Fiston, amène le dernier pot, et je remplis. T'es sûr que t'en as pas encore ? Non, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu. Et quand le pot est plein, le petit pot est vide. Alors ils ont commencé leur business d'huile, et ils ont commencé à vendre leur huile. Mais l'huile, dans Israël antique, c'est un élément extrêmement important. Si vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte qu'il y a 7 utilisations de l'huile dans les Écritures. C'est dire que tout le monde utilise de l'huile. C'est donc pas difficile de vendre de l'huile. Ça sert pour l'alimentation, ça sert pour s'éclairer, ça sert pour se chauffer, ça sert aussi pour être belle. C'est cosmétique. On s'en sert aussi pour faire du parfum. On s'en sert pour oindre les rois, les prophètes. L'huile est essentielle dans cette culture-là. Elle n'a donc pas de difficulté à vendre son huile. Peut-être même à une saison où on ne la produit pas. Donc on va lui acheter son huile en quantité industrielle. On va la lui acheter, son huile. Et puis les garçons vont repartir pour rendre les pots. Et ça ne va pas être facile de se souvenir à qui et quel pot. Alors les deux garçons vont courir dans la ville, c'est à toi celui-là et puis celui-ci. Mais entre-temps, le créancier lui a reçu son argent, les deux garçons sont libres. La mère est heureuse parce qu'elle a vu ce jour-là la délivrance de l'Éternel. Oh, sa foi a été testée. Amener des cruches, ben oui, des cruches. C'est sûr qu'ils avaient déjà entendu des histoires de cruches dans le passé, mais c'était pour Gédéon, ça. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces cruches dans ma maison ? Sa foi a été mise à l'épreuve, mais elle a vu la récompense de sa foi et elle loue aujourd'hui le Seigneur. Elle loue le Seigneur parce qu'elle a vu la délivrance de l'Éternel. Mais quand je lis cette histoire, je n'arrive pas à penser qu'elle se trouve dans les Écritures simplement parce que l'auteur du livre des Rois veut nous dire à quel point le ministère de Élisée a été puissant. Sans aucun doute, d'autres miracles ont été accomplis par Élisée, poussés par le Seigneur dans ce temps-là. Et ils ne sont pas tous racontés là, bien entendu. Mais pourquoi est-ce que celui-là a trouvé son chemin dans les Saintes Écritures. C'est que, voyez-vous, dans cette histoire, il y a, je crois, quelque chose de plus que ce que l'histoire, a priori, nous laisse voir. Quand j'y pense, les personnages ici de cette histoire me rappellent d'autres personnages dans les Écritures. Parce que dans les Écritures, la femme, c'est une image du peuple de Dieu, c'est une image de l'Église. Et ici, cette femme qui était la veuve d'un prophète, d'un fils de prophète, c'est une femme fidèle. Dans les Écritures, et en particulier dans l'Apocalypse, on a ces deux images de la femme fidèle et de la femme infidèle. Les deux se retrouvent dans l'Apocalypse, en particulier à la fin des temps, bien entendu. Alors on a dans cette histoire une histoire de l'Église. Et nous sommes l'Église. Et par conséquent, nous sommes concernés par l'Église. L'Église fidèle. Et puis, cette femme, elle est veuve. Son mari est mort. Mais nous apprenons aussi dans les Écritures qui est l'époux de l'Église. C'est Jésus lui-même. Dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, au chapitre 19, il nous est parlé de cette rencontre finale de l'épouse et de l'époux. Et cette femme est veuve. L'Église est veuve dans un sens parce que l'époux est mort. Jésus est mort. Il a donné sa vie pour elle. Mais il ne l'a pas laissée sans rien. Il y avait des promesses pour cela. L'Église n'est pas laissée seule. L'Église n'est pas dépourvue. Cette veuve, elle a des enfants. Elle a deux garçons, nous est-il dit. Et nous apprenons aussi dans les Écritures qu'il y a la postérité de la femme. Que ce soit la femme fidèle ou la femme infidèle, elles ont des enfants, nous disent les Écritures, dans ce langage spirituel. C'est-à-dire ces églises qui, dans le temps, vont continuer la mission de l'Église et qui vont se multiplier, en particulier à la fin des temps. Jésus, avant de mourir, avait laissé une promesse à ses disciples. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. » Je ne vous laisserai pas orphelins. Dans cette histoire, il y a aussi le créancier, celui qui arrive et qui réclame son dû, pense-t-il. Alors le créancier, c'est toujours le même. C'est Satan lui-même. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, verset 31, il est écrit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, dit Jésus à Pierre et aux disciples. » Mais il continue en disant « Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. » Satan vous a réclamé. Et c'est exactement ce que Satan fait dans cette histoire. Il réclame ses deux enfants, la postérité de la femme. Satan, c'est l'accusateur des frères. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 10, il est dit « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Et vous pouvez imaginer ce créancier qui vient ennuyer cette femme constamment, la mettre sous pression, lui dit « La semaine prochaine, tes deux garçons, je les prends. » Non, ces enfants ne partiront pas. On retrouve là cette tactique de l'ennemi qui multiplie les pressions et les intimidations et les menaces. L'accusateur des frères, nuit et jour devant le Père, il nous accuse. Cette histoire, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Église, c'est notre histoire. Mais il y a des circonstances particulières. Le texte que nous avons regardé tout à l'heure, à propos des orphelins, j'aimerais le lire avec vous de nouveau. Regardez avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 18, où Jésus disait « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Mais au verset 16, il est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité ». Jésus a fait la promesse d'envoyer un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Or, cette histoire est une histoire d'huile, et l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Alors, en effet, cette promesse que Jésus fait, Il l'a fait à son Église, il l'a fait aux disciples, il leur promet d'envoyer son Saint-Esprit. Et remarquez maintenant, cette histoire prend une tournure particulière. Parce que vous avez ces deux enfants, ces deux garçons, qui sont les enfants de la femme, la postérité de la femme. Dans les Écritures, deux sont liés au témoignage. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait accuser personne sans avoir au moins deux témoins. Et l'Apocalypse va aussi parler des deux témoins, des témoins de Jésus-Christ. Ces témoins sont directement liés à la parole parce qu'ils vont témoigner de la parole de Dieu. Regardez ce passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, par exemple. Au verset 11, en parlant de ceux qui sont fidèles à Dieu, il est dit au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Les voilà les témoins. Ils ont vaincu comment ? Par le sang de l'agneau, la mort de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils en ont rendu témoignage. Vous voyez ces deux garçons ? En fait, ils sont les deux témoins. Et ils vont aller dans la ville rendre témoignage de la parole prophétique qui leur a été donnée. D'aller chercher tous les contenants possibles. C'est-à-dire d'aller chercher des gens qui, eux, sont vides de la présence du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui sont vides et qu'il va falloir remplir. Alors, ces deux témoins, ce sont ces deux enfants qui vont charger de la parole, charger du témoignage. On va répondre au témoignage de leurs paroles et ils vont recueillir tous ces contenants. Ils vont les amener à la maison. Ils vont les amener vers leur maman, ils vont les amener dans l'Église. Alors il y a dans l'Église un vase d'huile, un petit vase d'huile. L'huile, il en est question dans les Écritures du début à la fin, mais j'aimerais simplement lire un texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Au verset 7, il est dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor, dit l'apôtre, dans des vases de terre. Nous sommes vraiment des vases de terre. Nous n'avons pas grande valeur. Mais nous portons en nous un trésor extraordinaire. Nous sommes ce vase qui est à la cuisine. Nous sommes ce vase d'huile qui est rempli d'huile. Oh, il peut être bien petit, mais il est capable de remplir tous ceux qui vont rentrer dans l'Église, dépourvus, eux, de cette connaissance et de cette puissance que le Seigneur accorde. C'est un peu comme le feu. Si vous avez une bougie, vous pouvez allumer 100 000 bougies avec une seule bougie. Ce n'est pas parce que vous allez allumer une bougie avec une bougie allumée que la première va s'éteindre. Elle peut allumer un feu immense et rester allumée aussi. C'est ce qui se passe dans notre histoire, où ce petit pot d'huile qui reste va être capable de remplir des contenants bien plus grands que lui-même. C'est que nous avons reçu cette grâce, vous comprenez ? Nous avons reçu cette grâce de nous ouvrir à l'action de l'Esprit et d'être habités par lui. Si vous tournez quelques pages dans la deuxième épître aux Corinthiens, où nous sommes au chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, il est dit ceci. « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. » Les arts, ou si vous voulez, les prémices. Nous avons été les privilégiés à recevoir l'action du Saint-Esprit, peut-être avant beaucoup d'autres. Alors nous sommes dans l'Église ce petit pot d'huile qui va servir à en remplir beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Il y a ces vases vides que les enfants vont apporter, ces vases vides que les témoins fidèles vont aller chercher partout en ville pour les amener à l'Église et qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils vont les apporter à la femme, à l'église, à la maison, de manière à ce que ces contenants vides qui remplissent le monde d'aujourd'hui puissent être remplis de la puissance de l'Esprit par notre témoignage. Je trouve extraordinaire que chacun d'entre nous qui sommes représentés par cette petite bouteille d'huile, je trouve extraordinaire que nous puissions faire tant que ça par la puissance de Dieu. Peut-être même que certains d'entre nous ont l'impression que leur vase d'huile est en fait à moitié plein ou à moitié vide. Prenez-le comme vous le sentez. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression que leur vase n'a peut-être plus qu'une goutte ou deux au fond, mais peu importe. Le prophète, de la part de Dieu, demande à cette femme, « Qu'est-ce que tu as ?»« J'ai juste un peu d'huile. » C'est bien. Dieu avait posé la même question à Moïse, vous vous en souvenez ?« Qu'est-ce que tu as en main ?»« Un bâton. » »« Et avec ce bâton, Moïse, tu vas faire de ma part des choses extraordinaires. » Jésus avait même posé la question à ses disciples, vous vous en souvenez, quand il leur avait dit, « Écoutez, regardez tous ces gens, ils n'ont pas mangé, nourrissez-les. » Et Philippe et les autres s'arrachaient les cheveux pour savoir comment ils allaient répondre à cette demande de Jésus de nourrir des milliers de gens qui ont faim alors qu'on n'a rien. Alors vous vous souvenez, dans l'évangile de Marc, il nous est rapporté cette question de Jésus. Jésus demande aux disciples, « Combien avez-vous de pain ?» Réponse des disciples, « 5 pains et puis 2 poissons. » « Parfait, amenez-les-moi. » Ça suffit. 5 pains pour nourrir une foule, non ? Ça suffit. 2 gouttes d'huile au fond d'un pot pour remplir tous les pots qu'on apporte. Ça suffit, non ? À condition que cette goutte d'huile, à condition que ce bâton, à condition que ce pain, on le donne au Seigneur Jésus. À condition qu'il soit consacré au service du Seigneur entièrement, complètement, volontairement. Alors à partir de là, le flot d'huile peut couler, couler, couler à l'infini. Pour autant qu'il y aura des récipients qui seront prêts à se laisser remplir. Le jour où il n'y aura plus de récipients, alors l'huile s'arrêtera. Ce n'est pas que le Seigneur est à court d'huile ou qu'il lui manque un peu de son esprit pour en répandre partout. Non, c'est qu'il manque des récipients disposés à être remplis par sa grâce et par la puissance de son esprit. Dieu prévoit en abondance. Et même dans cette histoire, le prophète lui dit, quand tu auras vendu toute ton huile, tu verras que tu auras encore un peu d'argent pour tes propres besoins. Et vous vous en souvenez, quand la multiplication des pains a eu lieu et que tout le monde a mangé, on apprend dans le texte que tout le monde a mangé à satiété et qu'on a encore ramassé 12 paniers de restes que les gens n'avaient pas besoin d'utiliser maintenant. Quand Dieu pourvoit, il le fait en abondance pour ceux qui s'ouvrent à son influence. Alors, nous sommes cette histoire, nous sommes cette église, nous sommes cette femme dont il est question dans 2 Rois chapitre 4. Cette femme fidèle qui a trouvé auprès de Dieu la réponse à sa prière. Grâce à elle, toute sa ville a bénéficié de l'huile que le Seigneur a fabriquée exprès pour elle. Et je me pose la question, est-ce que notre ville va bénéficier de l'huile dont le Seigneur a rempli les vases que nous sommes les uns et les autres? Et nous avons cette capacité, non pas en nous-mêmes, mais lorsque le Seigneur déverse son huile, il le fait en abondance, même à partir de la goutte qui reste au fond de notre vase à nous. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit agit, il agit de 2 manières essentielles. Il agit parce qu'il veut nous transformer et il agit parce qu'il veut nous équiper pour une mission particulière. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, il veut nous transformer. Et vous connaissez ces passages des Écritures qui nous disent que la transformation de notre vie, notre sanctification est une nécessité. Dieu ne veut pas simplement nous pardonner, il veut nous restaurer. Alors permettez que je vous lise ce paragraphe tiré du livre « Jésus-Christ » à la page 675 en français, 671 en anglais. La résistance au péché et la victoire ne sont possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui vient, non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Une tâche énorme à accomplir, immense, qui nous dépasse. Mais le texte nous dit dès le départ, tout ce travail est accompli par le ministère de la troisième personne de la divinité. Nous avons besoin d'être des vases remplis de l'Esprit de Dieu. Et Jésus a raconté une parabole là-dessus, une parabole que nous connaissons bien, la parabole des 10 vierges. Parce que c'est en étant remplis que nous sommes prêts pour le retour de Jésus. C'est en étant un vase rempli que nous sommes prêts aussi pour la mission à accomplir. Le Seigneur ne veut pas simplement que nous nous réjouissions d'être sauvés, nous. Il voudrait que nous nous réjouissions de sauver ceux qui sont avec nous. Nos enfants, nos parents, nos amis, ceux qui sont autour. Alors, par cette même puissance, il nous équipe pour une mission spéciale, une dernière mission dans l'histoire du monde. Dans le livre « Tragédie des siècles » par Ellen White, à la page 664-612 en anglais, il est écrit ceci. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. Vous avez l'impression de ne pas être équipé pour la mission que le Seigneur vous a donnée? Vous avez l'impression de ne pas avoir tous les arguments théologiques, tous les arguments bibliques pour pouvoir répondre aux questions? Mais votre vie n'est-elle pas un témoignage suffisant pour ça? L'huile que vous avez dans votre cœur et que le Seigneur y a versée ne vous donne-t-elle pas la force de donner votre témoignage autour de vous de ce que le Seigneur a fait pour vous? Nous sommes équipés pour la mission et nous sommes équipés pour l'éternité lorsque le Seigneur nous remplit de son Esprit. Et je crois que le flot de l'action de l'Esprit de Dieu et de son amour pour nous ne s'est pas arrêté. Il n'est limité que par le nombre de vases qui s'offrent à le recevoir. Amen.